Waouh, quelle joie de vous retrouver. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu au culte à l'église pour plein de raisons différentes. Le travail d'infirmier, mais beaucoup aussi d'autres raisons. On a pris une pause aussi, comme vous savez, au mois d'août avec Emmanuel. On avait vraiment besoin de prendre ce temps. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Et voilà, merci Seigneur pour tout ce qui se passe. Merci Seigneur aussi pour, c'est vrai, tout ce qu'on a vécu déjà depuis qu'on est là ensemble ce matin. Déjà dans l'introduction que Fabrice a amenée. Et puis ensuite, dans ce que Stéphanie a dit, je sentais que tout mon message était déjà dit et je me disais, ben, merveilleux, Seigneur, tu conduis toutes choses. Et c'est beau de sentir que l'esprit conduit, ça fait tellement du bien. Et c'est beau, réalisons, c'est Antoine qui répète toujours cette phrase, elle est belle, l'Église. Et pendant ce temps de louange, je me disais, mais oh, presque, je me pinçais, je disais, mais Seigneur, mais quel privilège de vivre ces temps ensemble. Quel privilège d'être conduit comme ça dans la présence de Dieu, devant le trône. Je me disais, mais Seigneur, mais on aimerait que ça ne s'arrête pas, quoi. C'est vraiment un cadeau et rendons-en nous compte que c'est un cadeau de vivre tous ces moments ensemble. Beaucoup de gens n'ont pas l'opportunité d'avoir une famille comme ça, d'avoir ces temps privilégiés et rendons-en nous compte et surtout aussi partageons-le. Voilà, je vais essayer de ne pas trop m'attarder. C'est jamais mon fort, les débuts de message. Je suis meilleur sur la deuxième partie en général, mais le Seigneur va m'aider. Donc, pour être sûr de ne pas se rater, on ouvre la Bible. Vous pouvez prendre le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, un passage ultra connu, mais on va quand même le lire ensemble à partir du verset 16. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns cependant eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Waouh, incroyable cette mission que Jésus laisse à ses disciples et par extension qu'il nous laisse aussi et qu'il nous demande de vivre. Pourquoi je partage ça, c'est des notes que j'ai en commun avec hier soir. Hier soir, j'étais invité à prêcher. Il m'est arrivé un truc de fou, je peux vous le partager à vous tel que c'est parce que je sais que vous comprendrez. Mais samedi dernier, je démarrais ma tournée d'infirmier, c'était 6h du matin, et on a des amis, bah Jess et Seb Brandt, qui sont venus prêcher déjà ici plusieurs fois, qui ont un zoom de prière quotidien. Tous les matins, ils ont un zoom de prière à 6h30. Et entre deux patients, je devais passer de Montboucher à l'autre côté de Montélimar, là-bas. Je me suis dit, tiens, je vais me connecter en roulant, je pose le téléphone à côté, vous inquiétez pas. Je vais me connecter au zoom de prière pendant que je conduis, quoi. On était quatre hommes, et d'un coup, Seb, vous savez, Seb, c'est une machine à prophétiser, quoi, et il se met à prophétiser sur les trois autres, comme ça, en continu. Et d'un coup, il me dit, Mathieu, je me rappelle, l'année dernière, on a été accompagner tes filles au bus qui partait au camp national des scouts. Et je sais pas pourquoi, j'ai ce souvenir qui me revient. Je sens que Dieu va t'utiliser par rapport aux scouts. Il va se passer quelque chose par rapport aux scouts. Donc voilà, le zoom de prière se termine. Je reprends ma tournée et très honnêtement, je me dis, ben, je vois pas du tout de quoi il veut parler. Certes, mes filles se régalent aux scouts et merci Seigneur pour les scouts. Mais moi perso, l'investissement personnel aujourd'hui, ça me parle pas. Je vois pas comment ça va se passer quoi. Je finis ma tournée, je mange, très important, vous le savez, pour moi après la sieste. Et au moment où je me lève de ma sieste, je vois sur mon WhatsApp un message vocal de Julien Duby, pasteur à Annecy. Et je dis, tiens, c'est bizarre, enfin, c'est pas très fréquent qu'il me laisse des messages. Et du coup, je l'écoute. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, Mathieu, je te laisse ce message parce que voilà, j'ai un souci de calendrier. J'étais censé prêcher la semaine prochaine à l'AG national des scouts évangéliques et j'ai un gros souci. Est-ce que par hasard, tu pourrais me remplacer? Alors là, je vous promets, j'avais les poils qui se hérissaient. Je disais non, mais c'est pas possible, quoi. Donc, ben, ma sieste a vraiment s'est terminée de manière nette. Je me suis levé d'un seul bond de mon lit et j'ai tout de suite appelé Sébastien qui avait prophétisé sur moi le matin. Je dis, tu sais pas quoi, voilà ce qui s'est passé. Donc, bon, lui, il trouvait ça totalement normal. Il est très habitué à voir ce genre de choses se produire. Mais du coup, après, j'ai rappelé Julien, j'ai dit, écoute, et donc je lui ai aussi raconté ce qui s'était passé, et j'ai dit, bah, écoute, je crois que je n'ai pas trop le choix, il faut que je dise oui. Puis du coup, j'étais là-bas hier soir, et c'était vraiment merveilleux à Alex, là, vous savez, à l'accueil Saint-Joseph, de voir tous ces chefs, 150 chefs scouts de la France entière qui représentaient vraiment tous les courants évangéliques qu'on a en France. Une atmosphère vraiment, qu'est-ce que c'est beau ce scoutisme chrétien, c'est impressionnant quoi. Je me suis retrouvé ému de voir cette unité, cette simplicité, cet enthousiasme, cet amour pour Dieu et pour les enfants bien sûr. Et je me suis laissé prendre dans ce mouvement comme ça et décider de devenir chef scout. Non, c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, peut-être, on sait jamais, mais ça fait déjà un peu long pour une intro. Mais du coup, voilà. Et je parlais hier soir, et je veux encore parler ce matin, de transmission. Donc c'est pour ça que c'était dit déjà ce matin. Et en fait, c'est normal, pour entrer dans le vif du sujet, qu'il y ait cette transmission dans ce passage qu'on vient de lire. C'est normal qu'on voit les mots « disciple » et « apprendre » ensemble dans le même passage. Pourquoi ? Parce que le mot « disciple » veut dire « élève ». Quand on est disciple de Jésus, ça veut dire qu'on est des élèves de Jésus, qu'on est des étudiants, qu'il est notre maître et qu'il est là pour nous apprendre quelque chose. Et nous, on est là pour apprendre quelque chose. Et ça, c'est pour ça que c'est ce que Dieu nous demande de faire, en fait, d'être ses disciples, donc d'apprendre de lui. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Maintenant, c'est à votre tour, apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est vraiment un commandement de Jésus de transmettre. C'est un commandement de Jésus de transmettre, les amis. Il faut vraiment chacun qu'on fasse le point dans notre vie et de se dire, tiens, est-ce que je suis en train de transmettre à quelqu'un ? Ça peut prendre plein de formes différentes. Les scouts hier, ben oui, c'est vraiment la base de leur ministère, quoi. Ils sont là pour transmettre l'évangile aux enfants. Est-ce que moi, j'ai un domaine de ma vie, là, en ce moment, où je suis en train de transmettre ? Parce que c'est vraiment ce que le Seigneur me demande de faire. Amen. Quelques défis de la transmission. Pourquoi ce n'est pas toujours si facile ? L'étymologie du mot transmission, trans, ça veut dire à travers ou au-delà, et mitere, dans le latin bien sûr, qui veut dire laisser aller ou envoyer. Et en fait, la transmission, c'est fait pour permettre à quelqu'un d'autre d'aller plus loin, et d'aller plus loin que là où il en était. Et on voit vraiment le message de l'évangile dans cette transmission, parce que la transmission c'est un don, c'est quelque chose que je fais pour quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette notion de don, et il y a vraiment cette notion que Jésus a fait cela lui-même en étant le don, en se donnant pour nous. Il nous a permis, nous a transmis l'amour de Dieu, l'amour du Père, et il nous a permis à notre tour de transmettre cet amour. Et vraiment on est dans le don, et le don aujourd'hui c'est un peu contre-culturel dans le monde dans lequel on est. Aujourd'hui on est plus dans le prendre que dans le donner, on est plus dans le qu'est-ce que moi je peux avoir que qu'est-ce que je peux donner à quelqu'un d'autre. Et merci Seigneur, c'est pas ce qui caractérise les enfants de Dieu, et je pense que c'est vraiment un encouragement à persévérer dans ce fait de donner comme Dieu donne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, et il nous appelle aussi à donner. Notre mission, la mission que Jésus nous donne, c'est de transmettre. Je voulais juste aborder quelque chose de très concrète. Parce que vous savez, ça fait un moment qu'on en parle, qu'on sent qu'on est en tant qu'Église dans une saison de transition. Et c'est rigolo, les mots transition et transmission se ressemblent pas mal au final. On ne sait pas exactement, mais ça fait 10 ans que Connect existe. Et on sent que c'est un jalon ces 10 ans, et qu'on est en train de basculer dans quelque chose de nouveau. Et tous ces leaders, tout ce qu'on disait, même vendredi soir, encore merci pour tous ceux qui ont conduit. On sent qu'il y a une armée qui se lève et qu'on va rentrer dans des nouvelles choses. Et justement, j'ai senti Dieu me dire, mais notre transition, c'est la transmission. Notre transition, c'est la transmission. Et c'est important de rapprocher ces deux termes. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi ce transfert d'autorité. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués ici. Ça fait quand même des années qu'on est ensemble. Il y a beaucoup parmi vous. On est là depuis le tout début. Et ça me rassure toujours. Je trouve ça tellement génial que des gens qui étaient là il y a plus de 10 ans dans notre salon soient toujours ici, qu'on soit toujours ensemble et que chacun puisse rentrer dans notre appel. Parce qu'il y a vraiment ce transfert d'autorité qui se fait petit à petit. Mais c'est exactement ce qui s'est passé dans le passage qu'on a lu. Jésus, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, donc allez. Jésus nous transfère cette autorité. Et nous sommes aussi appelés, nous qui sommes peut-être plus anciens ici, ou plus matures, ou plus d'expérience, chacun, en fait, dès que tu as vécu quelque chose avec Dieu, tu as une expérience que tu peux partager à quelqu'un. Et on est appelé à transférer, il y a ce transfert d'autorité de Jésus à nous, et nous ensuite on peut transférer cette autorité aussi à d'autres qui peuvent répliquer ce qu'on leur a appris. Donc la transition, c'est la transmission. Mais parfois la transmission, on a parlé de trans, on a parlé de à travers, ça fait mal aussi, c'est pas facile. Et j'étudie un peu, j'écoute un peu des témoignages de transition dans des églises ou même d'autres organisations. Ben souvent, c'est des processus qui sont pas faciles. Souvent, c'est des processus qui prennent plusieurs années et on perd quelques plumes au passage, mais c'est pas grave. C'est nécessaire de passer par là, un peu comme un accouchement. Le bébé passe de l'utérus à l'intérieur à la vie, enfin à l'air libre, quoi. Ça frotte un peu au passage. Mesdames, vous savez ce qu'il en est. Un petit peu, juste un petit peu, oui. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Les transitions, ça peut faire mal, mais c'est nécessaire et c'est important. Et aussi, la transmission, c'est quelque chose qui est remis en question dans notre société, beaucoup, surtout en Occident, où on a énormément de mal à se soumettre, on a énormément de mal, et c'est pour ça qu'en France, on s'est débarrassé du roi, parce qu'il y a cette idée de roi, de père, d'autorité, qui représente Dieu quelque part, à laquelle on a énormément de mal à se soumettre, et c'est ça la cause d'énormément de maux dans notre société. Et même, j'ai entendu ce témoignage, c'est Luc Bussière qui a expliqué que dans l'éducation nationale, même le mot transmission parfois était non, on n'est pas là pour transmettre. Parce que qui dit transmettre dit je suis supérieur à toi. Et ça, c'est quelque chose dans la société qui part complètement en vrille dans laquelle on est, ça ne supporte pas parce qu'il y a quelqu'un qui est supérieur, il y a une autorité à laquelle je ne peux pas me soumettre. Et c'est tellement important d'avoir les yeux clairs sur ça. Et il y a cette citation de quelqu'un qui est un philosophe qui a dit ceci, et je trouve très aidant. Notre refus de la transmission a engendré ce qui ressemble parfois à une société d'enfants sauvages. Développement des incivilités, distension de tous les liens, consumérisme irresponsable, difficultés quotidiennes dans la vie en collectivité, échec de l'insertion sociale, de l'engagement citoyen, rupture du dialogue entre les générations, explosion de la délinquance. Partout, nous voyons l'homme dégradé, insociable, grossier. Partout, nous voyons l'homme inhumain au cœur de nos pays développés. Nous avons le sentiment de voir ressurgir la barbarie et nous n'arrivons pas à nous l'expliquer. Et je trouve ça tellement parlant de voir que dans le monde, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, il y a ce côté hors de contrôle un peu, parce que oui, quand on refuse l'autorité, quand on refuse la soumission, c'est pour ça que l'ordre est important, et bien ça part dans tous les sens, et on a besoin, nous en tant que chrétiens, de modeler ce que c'est qu'une juste soumission, une juste soumission à Dieu qui permet la paix, qui permet un bon ordre. Amen. Ça me rappelle ce verset de Juges que vous connaissez probablement. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et dès qu'on commence à être dans le « chacun fait ce qui lui semble bon », eh bien, on se trompe parce qu'on n'est pas fait, nous, pour savoir ce qui est bon. Dieu sait, et ça vous rappelle un épisode au tout début de la Bible, où Adam et Ève ont mangé ce fruit de quoi ? De la connaissance du bien et du mal. Mais ce n'est pas quelque chose qui était fait pour l'homme d'avoir cette connaissance-là. Mais nous, on est censé faire confiance à Dieu qui a le meilleur pour nous. Amen. Et pourquoi transmettre ? Parce que c'est important et je ne vais pas dire trop de choses là-dessus, mais transmettre notamment aux jeunes générations. Et ça, c'est des choses qu'Emmanuel a déjà beaucoup partagées ici, mais il y avait juste ces deux citations que je vous redonne parce que c'est tellement important quand on pense aux jeunes générations. Il y a de moins en moins justement de repères et ils sont de plus en plus perdus avec certaines choses, on le voit. Il est plus facile de fabriquer un enfant solide que de réparer un adulte brisé. C'est un certain Frédéric Douglas qui a dit ça. Et la deuxième, évangéliser les enfants, c'est devancer le diable. Et ça, c'est ce cher William Booth qui a dit ça. Évangéliser les enfants, c'est devancer le diable. Vous savez, ce principe naturel de première mention que les enseignants tout ça connaissent bien, que la première chose que si tu es la première personne à dire une vérité à un enfant, tout ce qu'il va apprendre par la suite dans ce domaine-là, il va le comparer, il va le jauger par rapport à la première fois où il a entendu cette information. C'est pour ça qu'il faut abreuver nos enfants de l'évangile, de la parole de Dieu, des principes du royaume de Dieu. Parce que ça va faire une fondation. Et après, quand il entendra des autres choses, il va devoir comparer ça, il va devoir, mais il y aura déjà une fondation, un socle qui aura été posé. Amen. Et j'ai demandé, on était avec des amis très très proches, qui ont beaucoup d'enfants, qui sont des références spirituelles pour nous, et on leur a demandé, on leur a dit, ben, si vous aviez un conseil à nous donner aujourd'hui, eux qui sont un peu plus âgés que nous, si vous aviez un conseil à nous donner par rapport à nos enfants, qu'est-ce que ce serait ? Et ils ont été très clairs et unanimes, tous les deux, pour dire, ben, le portable, les amis, le portable, et surtout les réseaux sociaux, surtout Internet. En fait, c'est, les amis, c'est un fléau, et je suis content qu'il y ait plein de jeunes dans la salle ce matin, et les jeunes, et je sais qu'on est pénible avec ça, mais c'est tellement important, les amis, ne vous laissez pas entraîner par ça, ça va vous pourrir la vie. Ça pourrit la vie déjà de tellement de monde. Moi-même, qui n'ai pas grandi réellement avec ça, c'est arrivé quand j'étais déjà assez âgé, mais j'ai supprimé il y a 15 jours Facebook et Instagram de mon téléphone parce que tu as toujours des bonnes excuses. Oui, mais ça me permet d'être en relation. Oui, mais ça me permet de suivre tel et tel bon contenu. OK. Et c'est là que tu te mets à scroller 10, 15, 20, 30 minutes. Et c'est là où ton cerveau est complètement pourri et ton âme se trouve polluée. Et les jeunes, vraiment, avec tout mon amour, je vous le dis, ce n'est pas pour vous embêter. C'est parce que comme le Seigneur, en tant que parent, en tant que grand frère et grande sœur, on veut le meilleur pour vous. Donc apprenez à être violent avec ça. Peut-être tu as besoin juste de supprimer l'application quelques jours, quelques semaines et de faire une pause. Commence par ça et puis n'hésitez pas à en parler aussi. N'hésitez pas à en parler pour qu'on puisse vraiment vous encourager et que vous ne viviez pas ces choses-là seul, mais qu'on soit avec vous. Amen. Donc ça, c'était sur l'importance de transmettre aux plus jeunes. Et puis... Ma deuxième et dernière partie, mais où j'avais deux, trois points à voir, qui est ben, qu'est-ce qu'on transmet ? Qu'est-ce que c'est important qu'on transmette ? J'ai parlé de... Moi, j'en parlerai à la fin, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on transmet ? Et je suis en train de lire un livre en ce moment, je pense qu'il y a plusieurs dans l'église qui l'ont lu. Il y a toute une série comme ça, et notamment donc, Le disciple émotionnellement sain. De Peter Scazzero, que vraiment je recommande très 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 chaudement, il me fait un bien fou. Et du coup, il y a une phrase qu'il a dit qui m'a vraiment marqué, qui est tellement vraie, qu'on le sait tellement, mais tellement simple et puissante. Qu'est-ce que tu transmets ? Ce que tu es, c'est ce que tu transmets. Ce que tu es, c'est ce que tu transmets. En fait, oui, on peut essayer de plaquer, d'apprendre des grandes choses et de les dire et de les plaquer sur d'autres personnes. Mais la réalité, c'est que c'est qui on est nous-mêmes qu'on va pouvoir transmettre. Parce que quand on est nous-mêmes, il y a cette intégrité, il y a cette réalité de ce qu'on vit, il y a ce feu, il y a cette passion. Et ça va réellement être contagieux, ça va réellement pouvoir porter du fruit. Parce qu'il y a ce principe tellement connu, c'est qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Si on continue, si on s'obstine à vouloir donner ce qu'on n'a pas reçu, ben soit on va s'épuiser, et c'est d'où vient le burn-out, toutes ces choses, on va s'épuiser, et puis aussi on va pouvoir faire des dégâts, quoi, parce que Dieu ne veut pas qu'on se perde nous-mêmes en chemin. Quoi. Dieu, il veut notre santé à nous premièrement, et on donne du débordement de ce qu'on vit. On donne du débordement de ce qu'on vit avec Dieu. Donc vraiment, c'est un encouragement à faire le point régulièrement dans notre vie. Où j'en suis ? Et ce repos, on parle régulièrement du Shabbat, on parle régulièrement, c'est vraiment ce repos. Il faut qu'on vive dans ce repos. Et notre, encore une fois, le monde dans lequel on vit nous pousse totalement à l'inverse, et notamment avec le portable, plein d'autres choses. Même dans l'église, on est tellement, ça peut tellement aller vite de se faire complètement envahir. D'où le besoin de pause, un peu comme on a eu cet été. Parce que on a eu, voilà, Dieu nous a parlé de l'aigle, de prendre du recul. C'est quand on prend du recul, c'est quand on prend de la hauteur sur les choses, on peut respirer et là, on peut avoir une vision plus juste, plus équilibrée des choses. Et on a besoin de ces temps, on a besoin d'être dans ce repos. Au tout début du passage, qu'est-ce qu'on a lu ? Quand ils ont vu Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont adoré. Les disciples l'ont adoré. Il y en a certains qui ont eu des doutes. Et je t'encourage, mon frère, ma sœur, souvent dans la vie, on a le choix entre les deux. Soit douter et rajouter à ce doute et l'inquiétude et l'anxiété, soit adorer. Et je l'ai déjà entendu, mais je l'ai expérimenté aussi, c'est tellement vrai, c'est impossible de faire cohabiter louange et anxiété en même temps en nous-mêmes. En fait, dès que tu te mets à louer le Seigneur, c'est comme si d'un coup, il n'y a plus de place pour l'anxiété et pour la peur. Elle est chassée automatiquement. C'est deux réalités qui ne peuvent pas cohabiter. Et dans les disciples, il y en a qui l'ont adoré et il y en a qui ont eu des doutes. Et je t'invite, pareil, à te dire, bah, tiens, dans chaque situation, quand moi je suis vraiment sujet à l'anxiété régulièrement, eh bien, de choisir de le louer, choisir de... c'est une discipline en fait. Et tu verras très vite que les deux réalités ne peuvent pas cohabiter. Et l'adoration, c'est vraiment un choix. Et c'est encore une fois exactement ce que Stéphanie nous a expliqué. Tellement vrai, c'est un choix. Et ça porte tout de suite du fruit. Et parce qu'on parle de transmission, mais quel est le but de la transmission? C'est l'adoration. Quel est le but de la mission de faire des disciples? C'est l'adoration. Et il y a cette citation de John Piper que je trouve tellement parlante. Écoutez bien, c'est riche. La mission n'est pas le but ultime de l'Église. L'adoration l'est. La mission existe parce que l'adoration n'existe pas. L'adoration est ultime, pas la mission. Parce que Dieu est ultime, pas l'homme. Quand cet âge prendra fin, que d'innombrables millions de rachetés tomberont face contre terre devant le trône de Dieu, la mission n'existera plus. C'est une nécessité temporaire, mais l'adoration demeure pour toujours. Donc l'adoration est le carburant et le but de la mission. L'adoration a toujours été et sera toujours le but ultime de Dieu dans l'univers. Elle a toujours été le feu qui nourrit notre passion pour atteindre les personnes qui n'adorent pas le vrai Dieu, au travers de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut fermer les yeux juste un instant? Seigneur, c'est toi le centre. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous prenons cet instant pour nous rappeler que tu es le roi, que tu es le maître, que tu es notre Père, et que le but de notre existence, c'est de t'adorer. Seigneur, tu es le centre de toute chose. La croix est le centre de l'histoire de l'univers. Seigneur, nous te louerons pour l'éternité. Permets-nous de ne pas galvauder cette activité qui est la plus importante qui soit. Te louons, nous t'adorons, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Et plus on le contemple, on voit ça dans Corinthiens, plus on devient comme lui. Et du coup, vous savez, il y a toujours, j'espère que je ne vous saoule pas encore avec ça, mais il y a toujours ces fameuses trois dimensions, et je n'ai pas réussi encore à m'en écarter. Mais donc, il y a l'adoration qui est vraiment cette relation entre le Père et nous, cette relation verticale. Et puis après, il y a tout ce que fait Dieu à l'intérieur de nous, et notamment pendant qu'on l'adore. Mais parce qu'avant le « aller », fête des nations des disciples, il y a eu le « suivez-moi, je vous ferai ». Et Dieu nous transforme. Et il nous demande aussi de garder nos cœurs, plus que toute autre chose. Et garder nos cœurs, quand on te dit « garde ton cœur », ça demande vraiment une intentionnalité, ça ne va pas se faire tout seul. Ça demande une intentionnalité. Et nous avons la responsabilité de garder nos cœurs, de les protéger, un peu comme je disais par rapport au portable, de nous maintenir dans l'amour de Dieu. On a besoin de son amour et on a besoin de sa vérité parce que l'amour sans la vérité, ce n'est pas le vrai amour. Et pareil, cet été, donc, comme je vous ai dit, grâce au scout notamment, on a pu prendre une semaine, Emmanuel et moi. Et pour mon plus grand bonheur, on a été dans les montagnes. C'était magnifique, je vous recommande vraiment Pralognan-la-Vanoise. C'est une toute petite station, donc il y a très peu de remontées mécaniques, c'est très sauvage. C'était absolument... Il y a vraiment ce côté divin quand on lève les yeux vers les montagnes. Et là, il y a le secours de Dieu qui vient. Et on était entouré de glaciers et on marchait toute la journée, tous les jours. Et on a lu pendant cette semaine un livre que je vous conseille vraiment de John Bever sur l'offense, l'arme cachée de Satan. Un vieux livre, mais qui est tellement puissant. Et comme je vous le disais au début, par rapport à la transmission, ça a fait un peu mal de lire ce livre parce que ça nous met face à l'offense, qu'on est offensé ou qu'on est reçu de l'offense, et c'est jamais des choses très très agréables. mais ça nous a vraiment permis de cheminer avec le Seigneur. Ça nous a permis, dans ce temps de repos, de recul, qui nous montre un peu la feuille de route pour les prochains mois, les prochaines années. Et ça, c'était vraiment bon. Donc, encore une fois, être transformé par le Seigneur, ça fait parfois, c'est pas toujours très agréable, mais après coup, on sent vraiment, on se sent tellement plus léger, on sent cette libération à l'intérieur et on sent la vie du Seigneur qui peut à nouveau couler. Donc je vous encourage à garder vos cœurs comme ça. Si tu sais que Dieu est un bon Père pour toi, si tu as eu cette révélation qu'il veut le meilleur pour toi, tu acceptes sa volonté, même quand elle n'est pas toujours facile à accepter. Et tu acceptes aussi les standards élevés de l'Évangile pour ta vie. Jésus, vraiment, il nous donne un standard élevé, il nous confie. En fait, ce que lui a fait, il nous fait confiance pour le faire à notre tour. Rendons-nous compte du niveau de responsabilité. Et bien sûr, il nous a dit, je serai avec vous dans tout ça. À chaque instant, il est présent, il est avec nous. Mais ça nous demande quand même de ne pas nous laisser aller et de le suivre vraiment. Et j'avais vraiment envie d'honorer cet homme, et vraiment, je ne veux pas faire de politique ce matin. Mais j'avais vraiment envie d'honorer cet homme à qui on a pris la vie publiquement cette semaine aux États-Unis, Charlie Kirk. Je sais qu'il y a tellement, on en parlait avec Olivier ce matin, quand tu lis les médias français ou écoutes, tu as l'impression que le gars c'était un monstre, quoi. Et puis si tu t'intéresses réellement à qui est cette personne, et puis moi ce qui m'a marqué vraiment c'est son sourire, c'est sa simplicité et c'est l'honneur avec lequel il traitait ses pires détracteurs. En fait, les gens, on peut très bien ne pas être d'accord, mais il y a toujours ce respect à avoir. Et là où les gens lui envoyaient les pires, même des satanistes se tenaient devant lui, il répondait toujours calmement, avec sourire. Et il y avait cet amour de Dieu qui dégageait de ce gars. Et moi, j'ai pas mal pleuré en regardant tout ça. Et je me dis, mais quelle inspiration de ce gars qui incarne tellement bien ce verset. Je n'ai pas honte de l'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, dans Romains 1, verset 16. Et voilà, je me dis, il y a des gens qui comparent cet homme à Étienne, parce que, c'est pour sa foi qu'il a été exécuté. Il y a des gens qui le comparent à Martin Luther King. Et tu peux penser ce que tu veux de ça. Ce qui est sûr, j'ai aussi écouté sa femme qui a fait une allocution publique, la manière dont elle parlait de lui, et je me dis, mais waouh, quelle inspiration. Et oui, il y a une grosse tristesse, bien sûr, pour sa famille, premièrement, mais ça fait quand même une grosse onde de choc, cette histoire, aussi parce que c'était public, il y a vraiment cette notion-là, et je me dis, mais quelle inspiration, et même quel encouragement à nous aussi ne pas avoir honte, quel encouragement à garder nos cœurs, à ne pas laisser ces choses-là nous retenir et à oser vivre l'Évangile, à oser dire la vérité dans l'amour, à oser. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on ne peut plus dire. Moi, dans ce micro, il y a tellement de choses que si je les dis, je risque d'aller en prison, des vérités tellement banales, tellement simples. Et lui, il a payé de sa vie. Je me dis, inspirons-nous bien sûr dans la sagesse de Dieu, mais pour ne pas avoir peur et pour oser vivre tout ce que Dieu a pour chacun de nous de vivre dans cette mission de faire des disciples. Parce qu'il y a ce danger de la relativisation, il y a ce danger de « oh, c'est pas si grave, oh oui, je sais que la Bible dit ça, mais est-ce que vraiment d'ailleurs la Bible dit ça ?» Et quand on se met à prononcer ces mots, ça me fait penser à quelqu'un d'autre qui a prononcé ces mots. C'est le serpent dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit ? Les amis, prenons garde à la relativisation de la parole de Dieu. Seigneur, vraiment, viens-nous en aide. Viens-nous en aide. Et la dernière, Jésus nous a envoyé faire des disciples. Ça nécessite d'être intentionnel, ça nécessite du courage. Et je voulais vous parler de cet événement qui va se passer. Si tu peux montrer, John, je ne sais pas si tu l'as reçu, là, le visuel. Ah, génial, merci. Vous voyez, c'est samedi 11 octobre. On va organiser ici, il y a toute une équipe là, avec Loïc Morlon, avec Rémi, avec Fabrice, pour recevoir ce merveilleux couple-là, Jean-Marc et Martine Fritsch. Et en fait, ils sont vraiment super. C'est des gens qui sont passionnés par la multiplication de disciples. Et c'est vraiment contagieux. Et bien sûr, il n'y a pas de recette magique ou recette miracle pour faire des disciples. Il y a plein de manières différentes de le faire. Mais eux ont vraiment un feu. Ils ont tout ce nouveau concept un peu dans cette multiplication de disciples. Mais de pouvoir vivre aussi ça en parallèle d'une vie d'église un peu plus classique comme nous on la vit. Et c'est vraiment très très intéressant. Et au-delà des méthodes, il y a vraiment ce cœur de demander à Dieu quelles sont les personnes qu'il met sur notre chemin. Vous savez, on parle de personnes de paix dans Luc 10. Vous voyez ces personnes de paix, Matthieu 10, Luc 10. Et c'est en fait ces fameuses VIP, si vous avez déjà entendu. En fait, il y a des gens que Dieu met dans ta vie et c'est à toi de t'adresser à eux et de vraiment prier pour que Dieu nous révèle qui il met autour de nous. Ça peut être un voisin, un collègue de travail, plein de types de personnes, de prier et puis ensuite de pouvoir avoir cette intentionnalité et surtout d'arriver à les mettre en contact avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, on le voit hein, dans le début des Actes, elle se répandait et la parole de Dieu, elle est active en elle-même. Quand tu tiens la parole de Dieu dans tes mains, il y a Jésus qui est là avec toi et qui te parle et Jésus se débrouille même très bien pour toucher les gens tout seul alors qu'ils sont mis en contact avec sa parole. Et du coup, je vous encourage vraiment, je voulais parler de ça dans cette dimension vraiment d'aller à participer à cette journée 10h-17h et puis ils sont là pour le culte bien sûr le lendemain. Ça va vraiment nous aider en fait, parce qu'on peut parler de toutes ces choses là mais même si la méthode n'est pas magique, il y a un moment donné où il faut que ça soit concret et ils vont nous aider à aller dans ce concret. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde va s'engager dans ci ou dans ça, mais c'est juste pour réveiller nos cœurs à la mission, réveiller nos cœurs à ce que Dieu veut faire pour nous utiliser, pour faire des disciples. Et c'est tellement beau de voir ce que Dieu fait. Et je voulais aussi parler d'autres choses tant que je suis là devant vous. C'est que donc la semaine prochaine, vous savez, on parle de transition. Une des transitions qu'on vit en ce moment, c'est qu'on rejoint le réseau Nouvelle Connexion, RNC, et notamment, donc c'est un grand réseau qui est composé de réseaux, de sous-réseaux. Et donc nous, on rejoint le réseau Ariel, qui fait partie d'RNC, qui est vraiment axé sur l'adoration, justement, sur la prophétie, sur le royaume de Dieu. Et du coup, on est toute une équipe là, de l'Église à participer à la rencontre annuelle de leaders. Il y aura aussi l'AG, où l'Église va être officiellement accueillie dans le réseau. Donc voilà, ça va être un temps fort qui suit un peu tout ce cheminement qu'on vit en tant qu'Église. Et on croit, parce que le royaume de Dieu, c'est une armée, mais c'est aussi une famille. C'est une famille de familles. Et on croit que c'est important. On fait partie d'une famille. L'Église Connect est une famille. Mais on croit que c'est important que l'Église Connect aussi fasse partie d'une famille. On n'est pas on ne se suffit pas. Personne ne se suffit à soi-même. Et c'est beau de pouvoir rejoindre ce réseau. Il y a Elvire et Avira qui viennent et qui nous aident dans ce cheminement et qui vont continuer de venir. Donc voilà, je voulais vous tenir informés de ça parce que ça fait partie dans la suite de cette transition, de ce que Dieu nous conduit de vivre. Eh bien écoutez les amis, je vais m'arrêter là et je vous propose de finir en priant. Amen Seigneur. Amen Seigneur. Seigneur, merci pour toutes ces vérités de ta parole Seigneur. Merci parce que ta parole est la vérité. Merci parce que la vérité n'est pas un concept. Parfois, Seigneur, on entend ces mots qui n'ont tellement pas de sens. Oui, mais ça, c'est ta vérité, ça, c'est ma vérité. Non, il y a une seule vérité et ça n'est pas un concept. Tu es la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et Seigneur, tu as tracé un chemin, Seigneur, pour que chacun de nous l'emprunte. Seigneur, ce chemin, il est étroit. C'est ressorti dans les prières pendant cette fabuleuse semaine de jeûne et prière. Ce chemin, il est étroit. Pourquoi il est étroit, Seigneur ? Parce qu'il est vraiment à la taille de chacun de nous, sur mesure pour chacun de nous. Et Seigneur, toi, ta volonté, ce n'est pas qu'on aille à droite ou à gauche. C'est qu'on suive le chemin sur mesure que tu as pour chacun de nous. Et oui, Seigneur, il est étroit ce chemin parce que sans toi, on ne peut pas l'emprunter. On a besoin de toi pour l'emprunter. Et ça tombe bien, Seigneur, parce que tu nous as dit que tu serais avec nous tous les jours. Seigneur, pardon pour toutes les fois où on s'écarte du chemin que tu as pour nous, où on prend des détours. Bien sûr, Seigneur, toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Mais ce matin encore, Seigneur, on veut revenir à toi et dire, Seigneur, je veux marcher le chemin que tu as pour moi, je veux courir la course que tu as pour moi. Je ne veux pas regarder la course de mon voisin, je ne veux pas regarder la course de telle ou telle personne, tel grand pasteur, tel grand influenceur. Seigneur, c'est toi que je veux suivre. Vraiment, je vous invite à faire cette prière pour vous-même. Je vous invite à demander pardon aussi à Dieu, à vous repentir. S'il y a du péché dans votre vie, il y en a forcément. On n'en aura plus que quand on sera au ciel, mais il y a peut-être des choses majeures qui bloquent aujourd'hui ta vie, qui agissent comme du poison dans ta vie. C'est encore une fois le matin, c'est encore une fois le jour du salut aujourd'hui. Et tu peux dire, Seigneur, ça suffit. Avec toi, par ta force, ta puissance, ton amour, ça suffit. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui guérit, qui sauve. Vraiment, je prie, Seigneur, que tu nous fasses grandir, tu nous fasses rentrer, comme a dit Fabrice, dans une nouvelle strate d'influence, un nouveau degré de maturité. Seigneur, on pêche trop. Pourquoi on pêche trop ? Parce qu'on n'est pas assez rempli de toi, on n'est pas assez dans ta présence. Seigneur, quand on est dans ta présence, c'est comme la peur et l'anxiété, c'est impossible de pécher. Quand je suis devant le trône en train de t'adorer, c'est impossible de pécher. Seigneur, permets-nous que cette réalité prenne toute la place dans nos vies. Et là, on pourra vivre cette réalité du fait d'être saint et de ne plus être pécheur. Mais Seigneur, on a besoin de toi, besoin de ta grâce. On te demande pardon, Seigneur, pour notre cerveau français qui rejette si souvent l'autorité. Seigneur, on veut vraiment ce matin encore se soumettre à toi et te dire, tu es notre Père, tu es notre Maître et tu es bon et nous avons foi en toi. Et nous te faisons confiance, Seigneur, que tu as le meilleur pour chacun d'entre nous, pour nos enfants, pour nos familles, nos amis, Seigneur, pour ce pays. Seigneur, Seigneur, je te remets encore les autorités de ce pays, ça part dans tous les sens, il y a des chamboulements perpétuels. Ah, Seigneur, c'est tellement bon de savoir qu'aucun de ces éléments ne t'affecte. Aucun de ces éléments ne te fait trembler, Seigneur. Tu tiens le monde dans tes mains, Seigneur. Et toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Mais Seigneur, je finis ma prière avec ceci. Seigneur, je veux obéir à ton commandement d'aller et de partager ton amour, faire des disciples dans tous les domaines, dans toutes les sphères dans lesquelles je suis appelé à être. Premièrement dans ma famille, premièrement parmi mes enfants et dans les différents cercles où tu me permets d'être. Et Seigneur, que tout cela conduise à la louange, à l'adoration du plus grand nombre. Car tu es Dieu, il n'y en a pas d'autre. Tu es le grand roi de l'univers. Nous n'attendons personne d'autre, Jésus. C'est toi et toi seul, notre Sauveur et notre Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen.